Bretagne 5, écoutez la Bretagne. À voix haute, une émission de Meredith Ledez.
Bonjour, ce dimanche dans À voix haute, j'ai le plaisir de vous faire entendre les premières pages d'un livre de Lisa Kerrivel, Mauvais départ, paru aux éditions Guater en 2021. Marie Coïc naît en Bretagne, dans les décombres de la misère et de la Première Guerre mondiale. 1,7 million de morts en France. Heureusement, c'est la der des der. En 1921, ils ne savent pas encore. Personne ne peut se douter. L'avenir avance discrètement. Un jour prochain, ce monde deviendra finalement l'entre-deux-guerres. Ici, c'est Guilvinec, ou bien le Guilvinec. À la fin, on ne sait plus bien. Entre le nom officiel de la commune, Guilvinec, et le nom breton art Guelvenec, le Guilvinec. Le Guilvinec, c'est aussi le pseudonyme d'Yves Marie Lecor, un breton né au milieu d'une famille de 9 enfants, un homme qui a dû arrêter ses études à 12 ans pour travailler, un marin, un pêcheur de morue, un poète. Tous les marins sont des chanteurs. J'ai bu jusqu'au bout de l'ivresse. Que je sois sur mer ou sur terre, je n'avais pour toute maîtresse qu'une sirène au fond d'un verre. En 1921, Yves-Marie Le Guilvinec périt en mer du Nord à l'âge de 51 ans. Et Marie Coïc naît au mois d'octobre, quelques jours avant un certain Georges Brassens. Au mois d'août, cette année-là, c'est la fête des cormorans au Guilvinec. On cherche des sous pour les orphelins de pêcheurs, les familles de marins-pêcheurs et les victimes de la guerre. Les noces anciennes. Voilà le thème retenu pour cette première édition, comme si la vie n'était au fond que coïncidence. Le père de Marie s'appelle Joseph. C'est un patron pêcheur qui a été marié une première fois. Veuf, il a déjà un enfant qui se prénomme aussi Joseph. En seconde noces, il a épousé Sabina. Marie Coïc devient le 11 octobre 1921 leur der des der. Joseph et Sabina n'auront pas d'autres enfants. La famille Coïc et la pêche se confondent tellement qu'il n'est plus possible de dire laquelle des deux fait vivre l'autre. C'est vrai au Guilvinec, c'est vrai à Douarnenez, c'est vrai un peu partout sur les côtes bretonnes. Les saisons s'appellent maquereau de ligne, maquereau de dérive, thon, sardine de dérive et sardine de rogue. Avant, il n'y avait qu'une seule saison, celle de la sardine. 5 mois pour vivre 12 et encore seulement les bonnes années. Pas en 1881. Pas en 1882, pas en 1884, pas en 1886, pas en 1902. Ces années-là, la misère a remplacé la sardine. D'autres fois, il y en a eu trop des sardines. Les cours se sont effondrés et la misère est revenue de plus belle. Sur Terre, on travaille 80 heures par semaine dans les usines, sol en terre battue, glissant, odeur écœurante du poisson partout, sardines et autres poissons éviscérés, friture d'huile, saumure et pourriture mélangées. C'est pas une vie tous les jours. La colère monte, descend, remonte, redescend, et toujours monte et toujours descend. 1924. Comme pour annoncer l'avenir, une tempête très violente s'abat dans la nuit du 8 au 9 janvier sur toute la côte atlantique. des vagues de 7 à 8 mètres enterrent des flottilles entières de pêche. À quelques pas du Guilvinec, à Pinmar, un spectacle lamentable s'offre à nos yeux. À la place des routes apparaît une couche de sable de 20 cm, à laquelle se mêlent des galets, des épaves de toutes sortes, des engins de pêche, des instruments divers, des barriques, etc. En face de l'usine Casse-Grain, plusieurs barques obstruent le passage. Les environs de la gare et de l'hôtel de Bretagne sont entourés d'eau. Peut-on lire le lendemain dans le journal L'Ouest éclair. Nouveau raz de marée à Douarnenez à la fin de la même année. Une grève des sardinières, qui va durer 46 jours, débute le vendredi 21 novembre à l'usine Carnot et se répand à toute vitesse. Manifestation. 2000 femmes dans les rues de Douarnenez. Soupe populaire. Pain prêt à la veau. Les sardinières réclament 25 sous. 25 sous nous aurons. Le 23 décembre, à Douarnenez toujours, la conserverie de la veuve Quérault ouvre de nouveau ses portes. Elle vient d'accepter les demandes des femmes grévistes, alors que les autres patrons souhaitent attendre le départ des marins pour tenter de faire pourrir la grève. Le 7 janvier 1925, un accord est conclu. Les femmes ont gagné. Il fait encore nuit, elles sortent et frissonnent. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine, écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines. À 10 ou 12 ans, sont encore gamines, mais déjà pourtant elles entrent à l'usine. Du matin au soir, nettoient les sardines et puis les font frire dans de grandes bassines. Tant qu'il y a du poisson, il faut bien s'y faire. Il faut travailler, il n'y a pas d'horaire. À bout de fatigue, pour ne pas s'endormir, elles chantent en chœur, il faut bien tenir. Malgré leur travail, n'ont guère de salaire et bien trop souvent vivent dans la misère. Un jour, toutes ensemble, ces femmes se lèvent, à plusieurs milliers se mettent en grève. Écoutez claquer leurs sabots et écoutez gronder leur colère. Écoutez claquer leurs sabots, c'est la grève des sardinières. Après 6 semaines, toutes les sardinières ont gagné respect et meilleur salaire. Dans la ville rouge, on est solidaire, et de leur victoire, les femmes sont fières. À Douarnenez, et depuis ce temps, rien ne sera plus jamais comme avant. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'en est fini de leur colère. Écoutez le bruit de leurs sabots, c'est la victoire des sardinières. Ou plutôt, les femmes pensent qu'elles ont gagné. Au Guilvinec, certains conserveurs refusent d'appliquer l'accord qui vient d'être signé. Alors, en 1926, les ouvrières bigoudaines se mettent en grève à leur tour. Forcément, comme toutes les petites filles de 5 ans, Marie Coïc doit bien avoir aussi des idéaux, des envies et des rêves. Sur une photographie datant de cette époque, elle se tient debout, entourée de ses parents. Elle a dû prendre sagement la pose. Elle paraît bien sérieuse pour une enfant si jeune. Elle porte détachée sur ses épaules de longs cheveux bruns avec une frange courte qui semble couper son front en deux. Ses parents se tiennent très légèrement en retrait derrière elle, debout, eux aussi. La ressemblance entre la mère et la fille est frappante. Le même visage rond, les mêmes pommettes. Autour de Marie dansent des bigoudaines tout en larmes et en colère. Les ouvrières révoltées se rendent à la préfecture de Quimper. Charles Tillon est là pour les soutenir. Il peindra aussi, cette année-là, un tableau représentant les ouvrières des conserveries de poissons manifestant entre Douarnenez et Lesconil à la fin de la grève de 1924. La révolte des sardinières, drapeau rouge au premier plan. Sabina, la mère de Marie, fait partie du défilé. Pour le retour, elle prend le petit train départemental jusqu'à Pont-l'Abbé avec les autres manifestantes. L'histoire ne dit pas si la petite Marie Coïc est ce jour-là à Quimper avec sa mère ou si elle est restée à la maison avec son père Joseph. Le travail reprend au début de l'année 1927. mais pour les filles des usines de Lesconil, c'est une autre histoire. Au début du mois de mars 1927, le gérant d'une usine les prévient. Ceci est un dernier avis pour le cas où un noyau suffisant d'ouvrières serait décidé à travailler à nos conditions. Il faudrait alors qu'elles prennent rapidement position, envoient promener leur syndicat et leur meneuse une bonne fois et nous le fassent carrément savoir de façon que nous puissions nous-mêmes nous organiser pendant qu'il est encore temps. Avant un mois, il sera trop tard, nous serons engagés ailleurs. Enfin, il ne faut pas que les ouvrières attendent que nous leur demandions si elles veulent travailler, car nous ne leur demanderons pas. Nous avons maintenant des assurances par ailleurs qui font que nous nous moquons complètement de Lesconil et que nous pouvons nous en passer complètement. Si donc les ouvrières veulent travailler, c'est à elles de faire le premier pas. Pour toutes ces femmes qui ne savent souvent ni lire, ni écrire, ni compter, savoir lire, écrire et compter serait de toute façon moins utile que savoir se soumettre.
À voix haute, Meredith Ledez.
Marie Coïc entre dans les fritures juste après le certificat d'études. Elle a 13 ans en 1934, une année catastrophe pour la pêche. Qu'elle aime l'école n'a pas beaucoup d'importance. Qu'elle veuille continuer à y aller comme certaines de ses amies, peut-être. Que sa maîtresse la félicite pour son pupitre qui est le mieux entretenu de la classe, tant mieux. Mais cela ne suffit pas. Le Guilvinec compte 381 bateaux de pêche et autant de familles à nourrir. Marie commence à travailler et puis c'est tout. Il y a bien une loi, oui, datée du 23 avril 1919, qui fixe la journée de travail à 8 heures. Mais les enfants continuent de travailler la nuit et bien au-delà des 8 heures réglementaires. Personne ne dit rien. La misère est telle que lorsqu'un inspecteur du travail contrôle une usine, ouvrières et patrons se mettent d'accord pour cacher les fillettes dans de grandes caisses en bois. Il n'y a pas d'âge pour survivre. Le soir, la famille Coïc se retrouve pour le dîner. Une soupe au café, puis du poisson avec des pommes de terre. Parfois du mou, une sorte de ragoût de poumon de veau. L'hiver, le froid ne veut plus sortir de la maison. Malgré le poêle à charbon, il fait rarement plus de 8 à 10 degrés à l'intérieur. Pour se réchauffer, il reste quand même l'éveillé chez les riches pour travailler le crochet. Voilà. C'est à peu près tout. Rien d'autre pour comprendre cette enfance-là. Maintenant, son horizon, c'est tenir debout. En 1936, Marie fête ses 15 ans. C'est le Front populaire. Déferlement de grève dans 12 000 entreprises. vagues qui s'abattent sur le patronat français de mai à juillet. Peu de conserveries occupées, sauf à Pinmar, Camaret, Concarneau et Saint-Guénolé. Dans les usines de poissons, on travaille même le 14 juillet 1936. Les droits du travail avancent et reculent en même temps. Quand les usinières obtiennent les 2000 heures de travail par an, les conserveurs obtiennent, eux, une dérogation de 500 heures pour nécessité du travail. Et du travail, il y en a. L'été, les ouvrières du coin ne sont pas assez nombreuses. Les conserveurs font donc appel à des jeunes filles, le plus souvent originaires d'Audierne et du Guilvinec, qui débarquent par dizaines en Vendée. Marie travaille à Quiberon de mai à octobre, puis revient au Guilvinec après la saison de la sardine. L'hiver, elle fait du crochet avec sa mère, toujours. Mère et fille confectionnent des gants et des napperons en dentelle, vendus ensuite sur les marchés. Après Quiberon, c'est à Croix-de-Vie, qui n'est pas encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie, que Marie va travailler l'été. Les sardines tracent sa route et façonnent ses gestes. Dès leur arrivée à l'usine, les sardines sont apportées sur des tables dites tables d'étêtage, où elles sont saupoudrées de sel. Des ouvrières, à l'aide d'un couteau, leur enlèvent simultanément la tête et les intestins sans ouvrir le ventre grâce à un tour de main spécial, précise le manuel des pêches maritimes françaises de 1936. De la sardine, il ne reste alors que la chair et les arêtes. Un tour de main spécial, et pourtant aucune trace de ce passé. À peine une succession de mouvements et de jours de fatigue, étêtage, presse, cuisson, séchage, sertissage, stérilisation. À l'usine, Marie travaille 14 à 17 heures par jour. Des contrats fixent les conditions d'emploi des femmes recrutées pour la saison des pêches, comme celui-ci qui date de 1938 et acte l'accord conclu entre une jeune fille de Loctudie et l'usine Cassegrain de Croix-de-Vie. Marie a 17 ans. Il est probable que le contrat qui la liait chaque été à son usinier était exactement le même, puisque c'est un modèle dactylographié où sont ajoutés à l'encre les seuls éléments variables, à savoir l'identité de l'usinière et le lieu précis de l'usine. Il a été arrêté et convenu ce qui suit. Mademoiselle Coïc s'engage à venir travailler pendant toute la campagne de pêche de 1938 à l'usine Cassegrain située à Croix-de-Vie. Mademoiselle Coïc sera à la disposition de l'usine à toute heure selon les arrivages de poissons. Le dimanche, elle devra travailler une demi-journée chaque fois qu'il y aura nécessité. Et plus loin, le salaire mensuel sera celui qui sera fixé à la prochaine campagne avec l'indemnité de déplacement qui sera décidée à la même date pour les femmes qui s'engagent à rester à l'usine pour la campagne entière. Mademoiselle Coïc sera logée gratuitement dans les dortoirs de l'usine. Le voyage aller et retour lui sera payé à la condition express qu'elle fasse la campagne complète à l'usine. Le charbon nécessaire au chauffage et à la cuisine, ainsi que le sel, lui sera donné gratuitement. L'huile et le vinaigre lui seront fournis aussi gratuitement pour les besoins de la cuisine, jusqu'à concurrence de 1 demi-litre de vinaigre par mois et par personne, et 1 litre d'huile par mois et par personne. Chaque fois que l'usine prendra du poisson, il en sera fourni gracieusement pour les besoins de la cuisine, jusqu'à concurrence de 5 sardines par personne. L'engagement est fait, en principe, pour la durée de la campagne. Le personnel se tiendra prêt à répondre à l'appel à dater du 15 juin. L'appel devra être fait au plus tard le 15 juillet. Si des circonstances commerciales, industrielles ou autres amenaient la maison Cassegrain à fermer l'usine où le personnel est employé ou à diminuer le nombre des ouvrières, le présent contrat sera immédiatement résilié, moyennant le versement d'une indemnité d'un mois de salaire, avantages en nature exclus. Le personnel devra quitter l'usine dans un délai de 3 jours. Ce que ce contrat ne dit pas, c'est qu'à Croix-de-Vie, Mademoiselle Coïc va au bal avec ses copines. et qu'elle tombe amoureuse pour la première fois de sa vie d'un pêcheur vendéen. Il s'appelle Émile Gustave Buchou. Il est né en 1919, il y a donc 2 ans de plus qu'elle. Tout le monde l'appelle Tatave. Heures heureuses, heures hurlantes et lumineuses, heures diluviennes. Au même moment, l'homme qui va devenir son époux pêche lui aussi. Il est né à Tréboul, dans le Finistère, mais a déjà embarqué à Boulogne-sur-Mer, puis à Dieppe. Il a été adopté par la nation en 1924, à l'âge de 12 ans, afin de toucher une pension en tant que soutien de famille. Sur le livret militaire de son père, il est écrit « Réformé numéro 2 par la commission de réforme de Quimper le 6 juillet 1917 pour tumeur blanche ancienne de la jambe droite ». Il pêche maintenant la sardine à Saint-Jean-de-Luz. Il s'appelle Lucien et il est marié à une autre femme, Marie Tumette. Elles sont de la même famille. Marie Tumette n'est autre que la tante de Marie Coïc. Marie Tumette s'est mariée au jeune Lucien qui a 9 ans de moins qu'elle et vit avec lui une grande partie de l'année à Saint-Jean-de-Luz pour la pêche. Ensuite, il remonte progressivement durant l'été vers la baie d'Audierne et la côte Bigouden jusqu'à Tréboul, suivant le poisson comme tout le monde. Un jour, Marie Tumette ne peut plus suivre le poisson. Elle est trop malade. On lui envoie une jeune fille qui va s'occuper d'elle. Cette jeune fille qui va prendre soin d'elle et tenter de la soigner, c'est sa nièce qui vient de débarquer à Saint-Jean-de-Luz. Marie a 18 ans et aucune envie de s'installer là-bas. Mais elle écoute sa mère, obéit à ses parents. Elle pense que bientôt, elle retrouvera sa famille, le Guilvinec, ses amis, Augustine Croix-de-Vie, le bal, Tatave. Elle rêve un peu trop. Un peu comme tous ces gens qui aiment un peu trop la liberté. Le temps s'arrête, repart, cale, repart, accélère en quelques mois. Marie Tumette est morte. Marie se retrouve seule avec Lucien à Saint-Jean-de-Luz. Partout, le temps s'emballe. C'est la drôle de guerre de septembre 1939 à mai 1940, puis une guerre éclair d'un peu plus d'un mois. Le 22 juin, Pétain signe l'armistice. À leur arrivée dans notre région, les Boches ont commencé à prendre livraison de tous les stocks de conserves de sardines et de thon à l'huile, ainsi que 60% des stocks de conserves de légumes qui se trouvaient dans les usines à la date du 15 octobre 1940. C'est ce qu'on peut lire dans un rapport de la réunion du bureau de l'Union départementale CGT du Finistère, daté du 4 février 1945. Au même moment, les parents de Lucien se rendent de Tréboul au Guilvinec pour rencontrer Joseph et Sabina et arranger le mariage de leur fils, puisque Marie fréquente maintenant pour de bon. Pour la réputation de cette jeune fille, il vaut mieux que personne ne pense qu'elle est volage. Pourtant, Marie Coïc ne veut pas se marier. Pas plus avec Lucien qu'avec un autre homme. Elle ne veut pas d'enfant. Elle ne veut pas non plus de la coiffe traditionnelle bigoudaine. Elle est libre et entend bien le rester. Trop tard. Elle vient de se prendre son siècle en plein visage. Telle cette pierre que Lucien, enfant, a reçue sur le crâne, un de ces jours encore où il jouait avec ses copains sur la grève à Tréboul. Il était encore petit quand ce caillou lui a fait un trou dans la tête. Marie Coïc devient Marie Kerivel en 1941 au Guilvinec en tenue de bigouden. Ce jour-là, Lucien épouse donc en seconde noces sa nièce par alliance, âgée de 20 ans, cette jeune femme qui ne veut donc pas se marier ni avoir d'enfant. Il a 9 ans de plus qu'elle. Leur première fille naîtra quelques mois plus tard à Saint-Jean-de-Luz. De leur mariage, il reste 2 photographies officielles. Sur la première, il pose assis avec l'ensemble de la famille et des amis. Elle porte sa coiffe bigoudaine. C'est une photographie de groupe. 48 invités, les mariés, 4 enfants seulement. Sur les 26 femmes adultes, 16 portent des coiffes bigoudaines qui s'élèvent haut sur leur tête. Elle a atteint alors sa hauteur maximale, celle que le marketing impose fièrement aujourd'hui comme symbole de la Bretagne sur de plates publicités. La coiffe bigoudaine se dresse maintenant de près de 50 cm sur la tête des femmes, alors qu'elle ne faisait qu'une dizaine de centimètres au début du siècle. Ce sont les jeunes filles qui lui ont ajouté des centimètres d'année en année pour s'amuser, contribuant à l'allonger année après année. 50 cm. Sur la seconde photographie, la mariée a retiré sa coiffe bigoudaine. Mais c'est toujours le même jour car sa tenue est la même. Sur son visage, un léger sourire, friable. En se mariant avec ce marin, elle sait forcément qu'elle est en train d'épouser le monde qui va avec. La solitude, la maternité, la pauvreté, l'incertitude, la pêche, le bistrot. Bien sûr qu'elle sait. Femme de marin, femme de chagrin, non ? C'était « Mauvais départ », un roman de Lisa Kerivel paru aux éditions Guater en 2021. Cette émission était comme toujours réalisée par Frédéric Guillon. Vous avez pu entendre en interlude musical une chanson « Ololé » interprétée par Annie Ebrel accompagnée par Ricardo Delfra, extraite de l'album « Voulouse Loire, velours de lune ». Quant à moi, je vous souhaite un heureux dimanche soir et je vous dis au prochain week-end pour de nouvelles lectures à voix haute.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.